En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, lors de la séance du lundi 3 décembre 2012 à l'Académie des sciences morales et politiques, l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement a donné une communication dans laquelle il expose une sorte de fresque des révolutions dans le monde arabe. Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances. Vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bassit-Bruguière, qui accueille M. Chevènement, puis ce dernier qui a intitulé sa communication « Les changements politiques dans le monde arabe ».
Au cours de l'enquête sur les asymétries et les forces neuves du monde actuel, nous nous sommes arrêtés sur 3 grands pays musulmans, l'Indonésie, le Pakistan, en examinant spécialement les particularités de l'islam pakistanais, la Turquie, où nous avons examiné les tentations ottomanes que certains y relèvent depuis quelque temps. Nous avons essayé aussi de prendre la mesure des courants salafistes qui animent les sociétés musulmanes au Proche-Orient et au Maghreb. Il m'a semblé nécessaire de tenter également de prendre une vue d'ensemble des changements politiques dans le monde arabe. J'ai pensé que le plus pertinent serait de s'adresser pour cela à un homme politique d'expérience, connaissant bien ces régions et attentif aux différences de leurs paroles, de leur style et de leur réalité. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, j'ai pris la liberté de vous solliciter et je vous remercie d'avoir accepté. Vous fréquentez ces pays depuis de longues années, à titre public et à titre privé. Vous y êtes en contact avec des milieux très divers. Comme ministre, vous y avez connu l'épreuve de la guerre. Le cercle de réflexion que vous animez, la Fondation Respublica, continue à conduire une veille et une réflexion originale sur les événements de la région en relation avec l'évolution du reste du monde. Et comme actuellement vous ne détenez pas de portefeuille au gouvernement, vous pouvez parler très librement. Et lorsque vous avez bien voulu accepter la charge en mars dernier, je ne pensais pas que tant d'événements allaient se précipiter encore et vous causerait probablement jusqu'au dernier moment quelque angoisse pour les intégrer à votre propos. Mais vous êtes un homme qui avait l'habitude des épreuves et je suis sûre que vous nous apporterez beaucoup. Je ne vous présente pas personnellement, l'Assemblée ici montre que chacun vous connaît et je veux vous remercier encore d'avoir accepté de venir dans cette enceinte. Ou d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous venez parler, Monsieur le Ministre. La parole est à vous.
Merci, Madame le Président. Mesdames, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, je ne suis pas sûr que je sois tout à fait l'homme que vous avez décrit. Je suis très modeste devant des changements qui ont surpris. En effet, les révolutions arabes ont été, dès le départ, saluées avec d'autant plus de ferveur par l'opinion publique que personne ne les avait vus venir. Brusquement, ces sociétés se réveillaient, leur développement entrait en contradiction avec des régimes qui accaparaient le pouvoir depuis trop longtemps et dont la légitimité s'était érodée au fil du temps. Une vision quelque peu euphorisante s'est alors développée, celle d'un printemps arabe surgi au cœur de l'hiver 2011. À travers lui, les peuples arabes allaient rejoindre un mouvement universel vers la démocratie que d'autres peuples avaient parcouru avant eux. Tout aussi péremptoire aujourd'hui, une thèse inverse se fait jour. Et si les révolutions arabes n'avaient été qu'une ruse de l'histoire, ayant seulement servi de fourrier à l'islamisme politique, comme on le voit en Égypte, cœur du monde arabe, avec la victoire des frères musulmans. Il y a en fait deux temps dans les révolutions arabes, celui de leur éclosion et celui du processus électoral qui va révéler le pays réel. Je propose d'abord de replacer ces révolutions arabes dans le mouvement de l'histoire longue. Le monde arabe est notre voisin. Il est au cœur du monde musulman, qui compte 1200 millions d'habitants. Et je ne vais pas vous rappeler ce qu'est le monde musulman, vous le savez mieux que moi. Je vais glisser d'ailleurs sur toutes les parties factuelles de mon exposé pour me tenir autant que possible dans la limite du temps que vous m'avez imparti. Par contre, j'insisterai beaucoup plus sur ce qui est de l'ordre de l'analyse et de la compréhension. Donc, ces révolutions dites arabes sont encore énigmatiques. Une chose est sûre, depuis 2011, une page s'y tourne. Elle se tourne sur des régimes sclérosés, corrompus, dictatoriaux, en lesquels avaient plus ou moins fini par tourner les nationalismes arabes, nés des révolutions qui avaient suivi la Deuxième Guerre mondiale, et qui, à l'origine, aspiraient à accommoder, à l'usage de l'Orient, les recettes de l'Occident, la modernisation économique, le socialisme arabe, à travers l'intervention de l'État, la laïcité même. Ces régimes nationalistes arabes, curieusement, avaient d'abord été combattus par l'Occident, alors que ce que je viens de dire aurait dû nous les rendre, sinon sympathiques, aurait dû commander à leur égard une certaine empathie. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Sans doute menaçaient-ils les privilèges de l'Occident et ont-ils tenté assez vite de se rapprocher, en tout cas ont-ils été suspects de se rapprocher de l'URSS. Je rappelle quand même, en 1956, le président des États-Unis, qui était Eisenhower, avait sauvé la mise de Nasser. Donc les choses n'étaient pas encore aussi figées qu'on les voit avec le recul du temps. Mais on peut dire, grosso modo, que les États-Unis sont restés fidèles à leur politique, qui depuis très longtemps tend à soutenir l'Arabie saoudite, le pacte du Quincy en 1945, l'Arabie saoudite qui est la source principale de l'approvisionnement pétrolier, et plus généralement un islam conservateur qui s'est répandu dans tout le monde arabe à partir de 1973, à partir des chocs pétroliers qui a donné aux monarchies du Golfe une puissance financière qui, naturellement, n'existait pas dans les pays qui, traditionnellement, apparaissaient comme le cœur du monde arabe, l'Égypte, la Syrie, le Liban, etc. Donc, on a vu se développer un islam conservateur, soit wahhabite, soit sous une version un peu différente, on dira plus moderne, frères musulmans. Frères musulmans ont été créés en 1928 en Égypte par Hassan el-Banna. La création d'Israël en 1948, son expansion, ont conduit les États-Unis à s'engager de manière de plus en plus unilatérale à ses côtés, d'où une montée continue de l'anti-américanisme dans le monde arabe, particulièrement au Mashrek. Toutefois, il me semble juste de dire que dans l'échec global des nationalismes arabes, la responsabilité des sociétés arabes et de leurs leaders ne saurait malheureusement être éludée. Très marquée par la tradition patriarcale et la verticalité du pouvoir propre aux sociétés méditerranéennes, les pays arabes n'accèdent pas spontanément à la dimension horizontale du débat civique. Ce serait tout l'intérêt du processus enclenché par la révolution arabe si elle permettait d'y remédier. Ce travail de soi sur soi des sociétés arabes est un préalable. Les révolutions arabes n'en sont qu'à leur début. Elles apparaissent au départ comme une rupture générationnelle entre une jeunesse qui est bien de son temps, une jeunesse branchée, mais relativement coupée des générations antérieures, celles qui avaient fait les indépendances, et d'autre part des structures de pouvoir qui sont aujourd'hui, enfin qui étaient hier, parce qu'elles ont été balayées, qui étaient loin de leurs sources. Dans un premier temps, j'aimerais montrer que ces révolutions arabes ont eu pour cadre les nations constituées, quelquefois héritées des frontières fixées par le colonisateur. En tout état de cause, n'ont pas eu vocation à bouleverser le monde arabe dans son ensemble. Elles visaient, pour chacun de ces pays, à redonner au peuple, à donner au peuple la maîtrise de leur destin, car rares étaient ceux qui avaient connu même un embryon de démocratie. On pourrait citer le Waft égyptien dans l'entre-deux-guerres, mais de manière générale, ces pays n'avaient pas connu la démocratie. Ces États, généralement à majorité sunnite, à l'exception d'Irak et de Bahreïn, sont néanmoins divisées. Il y a des minorités chrétiennes, chiites, druzes, kurdes, et souvent l'expression de ces minorités a été favorisée par la colonisation. La majorité sunnite s'est ainsi retrouvée en position d'hostilité vis-à-vis de l'Occident dans des mouvements musulmans intégristes, comme les frères musulmans que j'ai évoqués tout à l'heure. Des régimes souvent minoritaires et autoritaires ont fini par s'imposer face à une politique occidentale marquée par un soutien de plus en plus inconditionnel à Israël et à la méconnaissance persistante des droits du peuple palestinien. Les échecs successifs des États arabes face à Israël, la surenchère diplomatique, l'inefficacité économique ont entraîné dans les peuples du Mashrek notamment une forte culture du ressentiment. Dans ces révolutions arabes, il ne faut pas confondre, me semble-t-il, la concomitance et l'unité. La concomitance est évidente. En Tunisie, la révolution éclate le 17 décembre 2010. La suite se joue en Égypte, en Libye, au Maroc. Un indiscutable effet d'entraînement a eu lieu. Des traits communs apparaissent partout. Des mouvements modernes à propulsion démocratique posent le problème de la participation de la majorité à la définition de son destin. Avec la liberté d'expression, la libération des prisonniers politiques, le pluralisme politique, un processus d'expression des sociétés se met en branle. Bref, la forme est démocratique, même si la forme ne préjuge pas du fond. Elle permet simplement le développement de la conflictualité. Des forces qui pourraient s'opposer au mouvement, l'armée ou bien les États-Unis, laissent faire. Chacun de ces mouvements porte enfin la marque de l'histoire et des contradictions de la nation dans laquelle il se développe. C'est pourquoi ces révolutions arabes sont si diverses, à tel point que le vocable qui les désigne perd progressivement de sa clarté initiale. Partout au départ, il y a le culte du drapeau, l'affirmation de l'identité nationale. La fierté nationale a été un carburant des soulèvements. Les acteurs ne se perçoivent pas comme les artisans d'un printemps arabe embrassant tout le monde arabo-musulman, mais je le répète, comme les acteurs d'une renaissance de leur pays. La forme nationale prise au départ peut apparaître comme une forme de sécularisation à travers la revendication d'un État porteur de l'intérêt général. Ces mouvements se développent selon une logique propre à chaque pays concerné. Je vais glisser un peu sur l'exposé de ce qui s'est passé. Vous le connaissez, en Tunisie, les causes sont bien connues. Ben Ali, l'accaparement de la richesse, le démantèlement de l'accord multifibre qui détruit des dizaines de milliers d'emplois locaux, la démocratisation de l'école et de l'université, qui met sur le marché un grand nombre de diplômés sans emploi. Ben Ali part dès lors qu'il comprend que l'armée le lâche. En Égypte, la principale force d'opposition, les frères musulmans, n'est pas présente au début du mouvement. C'est l'armée, s'appuyant sur les manifestations de la place Tahrir, qui a écarté Moubarak. On a observé par la suite une prise en main progressive par les frères musulmans au fur et à mesure que la population dans sa masse rejoignait le mouvement. La vraie révolution, ce n'est pas la manifestation du 25 janvier 2011, place Tahrir, ni le départ du Raïs le 11 février, mais des élections à l'automne qui ont envoyé 78% de députés islamistes au Parlement, frères musulmans et salafistes. Comme en Tunisie, les Américains ont été plus des facilitateurs que des acteurs. Le libéralisme professé en matière économique par les islamistes y est peut-être pour quelque chose. En Libye, je glisserai les divisions anciennes du pays en tribus et le partage inégal de la richesse pétrolière expliquent en partie aussi bien la révolte que le soutien longtemps reçu par le régime. À Bahreïn, le caractère propre de l'État, majorité chiite dans la population, monarchie sunnite, explique aussi bien la contestation que son écrasement par l'armée saoudienne. Au Maroc, le mouvement du 20 février s'est heurté à l'agenda du roi, de l'USFP, comme à celui des islamistes. Une guerre prospérée, la reprise en main effectuée par le roi, organisant un référendum constitutionnel avec 73% de participation et 97% de oui, a été approuvée par la majorité de la population. Puis, aux élections législatives de novembre 2011, les islamistes du PJD, Parti de la Justice et du Développement, sont arrivés en tête avec 27% des voix. Le gouvernement Ben Kirane compte 12 ministres islamistes. Le Maroc est un triangle dont le sommet est la monarchie, avec deux pôles, l'un moderniste, l'autre islamiste. En Algérie, l'absence de grands mouvements populaires organisés de contestation ne se comprend qu'en référence à l'histoire récente du pays, et particulièrement à la guerre civile des années 90, qui a fait 150 000 morts. Ajoutons à cela que l'Algérie, pays relativement riche, a su éteindre la contestation par des mesures ciblées de baisse des prix, touchant la consommation populaire, et ces deux facteurs expliquent largement l'absence d'un grand mouvement de contestation. En Syrie, les mouvements de contestation visent le régime dictatorial et policier de Bachar el-Assad, mais dès le départ, ces mouvements sont marqués par les divisions confessionnelles anciennes du pays. La minorité alaouite, l'armée qui lui sert d'ascenseur social, la majorité sunnite, mais aussi d'autres minorités chrétiennes, druzes, kurdes, arméniennes. Très vite, j'oublie de mentionner l'écrasement des frères musulmans en 1982 qui continue à peser. Très vite, venus de toute la région, des combattants armés se revendiquant de la cause islamiste rejoignent les combattants. La révolution prend aujourd'hui les traits d'une guerre civile. Au Yémen, l'insurrection populaire, qui contestait le président Salé, n'a pu s'arracher aux tensions inhérentes à ce pays qui avait été divisé puis réunifié dans la période récente. La solution yéménite favorisée par l'Arabie saoudite n'empêche pas les islamistes radicaux de contrôler à présent l'Est et le Sud du pays. Au Nord-Mali, la revendication indépendantiste Touareg, celle du MNLA, mouvement de libération de l'Azawad, a été rapidement écartée par les islamistes radicaux, ACMI, le Moudjahou, et un mouvement particulier, Ansar al-Din, à composante essentiellement Touareg, mais proche de la mouvance intégriste. Donc, un cadre national, partout, mais un fond qui, très rapidement, va apparaître dans la deuxième phase de ces révolutions arabes, enfin de ces mouvements, comme un fond conservateur, pour deux raisons très simples, c'est que l'islam est conservateur. Après la phase révolutionnaire, s'ouvre donc la deuxième séquence, qui permet à la société profonde de s'exprimer, monde rural, faubourgs urbains, masse dont l'islam est la référence et l'horizon. Et cela d'autant plus que les organisations islamistes, je pense aux frères musulmans, ont tissé depuis longtemps avec la tolérance des autorités en place, d'ailleurs un étroit réseau d'éducation et d'aide sociale. Henri Laurence, professeur au Collège de France, explique que la poussée de l'islam est en bonne partie le fruit des progrès de l'éducation dans ces pays, que l'alphabétisation a permis l'accès à la lecture du Coran et que les contestataires ont pu y puiser des arguments. Cette acculturation religieuse, écrit-il, n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en Europe avec la réforme protestante puis la contre-réforme catholique au XVIe et XVIIe siècle. Vous savez que Luther prenait le retour au texte de l'écriture. Et cette analogie m'a paru intéressante. Pour bien parler des islamistes, je n'ai pas le temps, mais Bruno Étienne avait une formule saisissante. Il disait « Les islamistes, c'est les bonnes sœurs plus la CGT ». Alors, j'ai réfléchi à cette formule qui est séduisante. Je veux introduire quand même un correctif à la pensée de Bruno Étienne. Je dirais à ceci près que l'islamisme, je l'ai déjà dit, s'accorde fort bien avec le libéralisme économique. Maxime Rodinson, dans un livre déjà ancien, « Islam et capitaliste », avait bien montré que les textes fondateurs de l'islam magnifiaient le commerce et la libre entreprise. Khadija, la femme du prophète, était d'ailleurs une grande femme d'affaires. Le printemps tunisien fut plutôt un mai 68, mené par des jeunes, suivi de l'irruption dans les urnes d'une révolution conservatrice. C'est le schéma Pompidou, en quelque sorte. 9 mois après le départ de Ben Ali, le parti islamiste, NADA, emporte 89 sièges sur 217. Il forme le gouvernement avec deux partis de centre-gauche, le Congrès pour la République du président Marzouki et État Katol, dirigé par le président de l'Assemblée constituante, Mohamed Ben Jafar. Le président d'NADA, Rachid Ghannouchi, revenu d'exil, pratique une politique renvoyant dos à dos les laïcs, c'est-à-dire les tenants, les héritiers du bourguibisme, et d'autre part les salafistes. En fait, le gouvernement est contraint de réprimer les assauts menés par ces salafistes contre les expositions culturelles ou même les postes de police. L'affaire se gâte quand c'est le consulat américain qui est visé. La police est amenée à tirer, le gouvernement est sur le fil du rasoir, l'opinion publique commence à se retourner. Le problème d'Ennahda, c'est évidemment la réalité et le chômage. notamment celui des jeunes, et aussi de ne pas se laisser déborder par les salafistes, car le mouvement salafiste prospère sur ce chômage particulièrement des jeunes et recrute dans une jeunesse marginalisée. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de constitution en Tunisie, mais de nombreux problèmes sont irrésolus. L'UGTT, la puissante centrale syndicale qui a soutenu la révolution, vient d'appeler au dialogue national pour hisser l'intérêt général au-dessus du particulier. Donc, tension, et on attend la suite, les premières élections doivent avoir lieu probablement en juin 2013. Il n'est pas anormal, je le dis en passant, qu'une transition vers la démocratie fasse apparaître des contradictions. La découverte du pluralisme, du débat, est en soi chose positive. Mais est-ce une transition vers la démocratie ? La Tunisie est un laboratoire qui dira si une synthèse est possible entre l'islamisme politique et la démocratie. Le printemps égyptien a été suivi de deux séries de consultations électorales, remportées toutes deux par les frères musulmans. Victoire électorale aux législatives avec 44%. La totalité des votes islamistes, si on inclut les salafistes, dépasse 70% des voix. Puis, au présidentiel, mais avec un reflux notable, 24% des voix au premier tour, 52% au second. L'élection de Mohamed Morsi conduit à un effacement politique de l'armée. La forte capacité manœuvrière du président Morsi est apparue dans l'effacement des militaires. On peut penser que l'administration Obama n'y est pas pour rien. Dans sa capacité également de naviguer entre les écueils et d'obtenir par exemple une trêve entre Israël et le Hamas. Donc une crédibilité nouvelle sur le plan international, mais des problèmes internes. L'extension par décret de ses pouvoirs marque un seuil. Un conflit oppose le président Morsi et les juges qui refusent de superviser l'élection prévue, enfin le référendum, prévu le 15 décembre prochain. On voit que Morsi, comme Pompidou d'ailleurs, choisit les urnes contre la rue, et ben, on verra ce qui en résultera. Henri Laurence porte un jugement nuancé sur les islamistes. Il dit que ceux-ci sont condamnés à accepter le pluralisme, mais qu'il a changé d'avis, qu'aujourd'hui, les islamistes sont des gens plus adeptes du compromis, que s'il avait écrit il y a 10 ans, il aurait dit ce sont des antimodernes, des adeptes du clash des civilisations, cher à Huntington, mais qu'aujourd'hui, leurs idéologues insistent sur la compatibilité entre la modernité incarnée par l'Occident et l'islam. Le grand thème des élections a été l'élaboration de l'état civil. Dawla Madaniya, sorte de mix entre l'état de droit et la société civile. Reste à savoir si la réalité marquée par l'absence d'alternatives politiques réelles aux islamistes se conformera au discours des idéologues. Des idéologues islamistes. Je m'introduis un point d'interrogation. En Libye, les forces démocratiques étaient principalement islamistes. Il n'y a rien eu d'étonnant à ce que la remise en vigueur de la charia a été l'une des premières mesures annoncées. Les violences ethniques demeurent, notamment au sud. Les frères musulmans ont certes été battus aux élections par les libéraux, de Mahmoud Djibril, mais ce libéralisme, que je mets entre guillemets, tient plus d'un islamo-nationalisme et son succès par rapport aux frères musulmans d'une défiance à l'égard de l'Égypte qui protège ces derniers. En Syrie, la réalité d'une guerre civile s'exacerbe. Elle évoque davantage, selon moi, ce qu'ont connu l'Algérie et le Liban, que les révolutions arabes de Tunisie ou d'Égypte. La Syrie est devenue un champ ouvert à toutes les ingérences. Il faut refonder un pacte national syrien, ce qui implique le rapprochement des communautés et d'abord la trêve que recherche méritoirement l'Akhdar Brahimi. Ce que peut être l'après-Assad n'apparaît pas clairement. Au Nord Mali, une séquence analogue a été observée. Les militants de l'indépendance Touareg ont été supplantés par les islamistes radicaux dont il faudrait explorer qui les finance et les soutient. Enfin, ils ont utilisé beaucoup d'armes prises en Libye. Partout, sauf en Algérie et au Maroc, les printemps arabes ont donc été pris en main aujourd'hui par les frères musulmans ou les islamo-nationalistes. La question du djihadisme, je vais la traiter à part et ultérieurement. Quelques mots sur la stratégie des acteurs politiques. Un mot sur les monarchies du Golfe. Elles se sont impliquées par tous les moyens dont elles disposent aux côtés de la récupération islamiste des révoltes populaires. Le Qatar soutenant plutôt les frères musulmans et l'Arabie saoudite ne rechignant pas à aider les mouvements salafistes. Le wahhabisme voit de plus en plus au Proche-Orient un nouvel épisode de sa rivalité à l'égard du chiisme. Depuis l'essoufflement et la mort du bassisme et l'épuisement du nationalisme arabe, les deux pôles du Moyen-Orient sont Téhéran et Riyad. Le Liban a toujours été la victime désignée de cet affrontement. le Caire essaye de garder une marge de manœuvre entre les deux capitales. Le rôle de la Turquie est ambigu. La Turquie est ce qui se rapproche le plus d'une démocratie musulmane, avec l'AKP. Mais avant, il y avait eu Kemal Atatürk, et tous les pays arabes n'ont pas fait ce chemin, sauf peut-être la Tunisie avec Bourguiba. La Turquie actuelle tend incontestablement à reprendre l'héritage de l'Empire ottoman, mais en même temps, elle se méfie car au sud de sa frontière, il y a des populations kurdes, et je pense que le soutien qu'elle a donné d'abord à la révolution syrienne, aujourd'hui, est nuancé, et que la Turquie, au fond, est attachée au maintien de l'intégrité de la Syrie. C'est une présupposition. Les États-Unis avaient les meilleurs rapports avec ce qu'on appellera les anciens régimes, mais dès que ceux-ci ont été balayés, ils ont été très prompts à changer de monture. Ils ont soutenu les islamistes. Si ceux-ci étaient désignés par le suffrage universel, ils devenaient des partenaires légitimes. Et j'ai déjà rappelé l'alliance stratégique des États-Unis avec les courants les plus conservateurs de l'islam, le pacte du Quincy, une alliance renouvelée au moment de l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Et je dirais qu'en d'autres occasions, on avait vu notamment le soutien apporté par les États-Unis aux frères musulmans contre Nasser. Donc il y a un fil rouge qui permet de comprendre bien des choses. La Russie et la Chine, ils ne veulent pas laisser le Proche-Orient aux Occidentaux, pour des raisons énergétiques sans doute, mais pas seulement. Ils ne veulent pas laisser se développer un droit d'ingérence qui un jour pourrait les prendre pour cible. Ils se méfient beaucoup depuis l'interprétation extensive de la résolution 1973 appliquée à la Libye. Ils considèrent qu'on est allé au-delà du devoir de protéger, qu'on est allé vers l'ingérence, qui est proscrite par l'ONU. La hantise de la Russie aussi est de voir l'islamisme qualifié de wahhabite s'incruster au Caucase, saper l'influence des États protégés de la CEI en Asie centrale et gangrener les républiques musulmanes établies le long de la Volga, la Bachkirie, capitale Oufa, au nord. Mais le long de la Volga jusqu'à Kazan, les Tatars, il y a 5 siècles que les Russes ont conquis Kazan, et au Kremlin de Kazan, il y a une grande mosquée dont l'imam modéré a fait l'objet d'un attentat meurtrier, il y a de ça quelques semaines, par des islamistes radicaux. Donc les Russes sont très préoccupés de cet islamisme radical qui pourrait, à la limite, presque couper la Russie en deux, séparant sa partie européenne de la partie sibérienne. Je crois qu'il faut comprendre cela si on veut comprendre leur réaction, qui est souvent, il faut le dire, très brutale, et qui n'est pas exactement celle que je vais exposer comme étant désirable. Toujours est-il que les Russes, aussi depuis Poutine, et la recristianisation ostensible de la Russie, la volonté d'apparaître comme les protecteurs des chrétiens d'Orient, rôle qu'ils partageaient traditionnellement avec la France. À eux, les orthodoxes, et à nous, les catholiques. Dans les printemps arabes, Téhéran n'est pas parvenue à jouer le rôle dont elle avait l'ambition. Israël, inquiet de l'islamisme et de la déstabilisation, a pour sa part insisté sur le péril iranien. La balkanisation de certains pays arabes n'est sans doute pas pour lui déplaire. Quant à la France, elle s'est engagée, il faut bien le dire, lors de la première guerre du Golfe, sur la pente de certains suivismes à l'égard de la politique américaine au Moyen-Orient. La politique arabe d'inspiration gaullienne, on s'en souvient, avait été qualifiée en mars 1991 de succession d'illusions par le ministre des Affaires étrangères de l'époque. L'arrivée au pouvoir de régimes islamistes dans le monde arabe ne peut que renforcer cette orientation qui va au-delà du simple réalisme et conduit quelquefois à anticiper. En Libye, en Syrie, la question de l'État palestinien est évidemment pour la diplomatie française un marqueur d'autonomie centrale par rapport à la politique américaine. On l'a vu encore il y a quelques jours à l'ONU. La reconnaissance d'un État palestinien peut conforter du point de vue de la France le courant laïque de la résistance palestinienne et contribuer à désamorcer les risques potentiels que comporte la montée de l'islamisme politique en faisant apparaître que tout l'Occident n'est pas uni dans une politique de soutien inconditionnel au gouvernement de Likoud. À Bahreïn, le silence radio a rapidement régné, tant le scénario réel était contradictoire avec la doxa. Au Nord-Mali, les contradictions sont là. Nous avons des régimes africains amis. Une intervention militaire paraît inévitable. Reste à savoir quelle forme elle va prendre. L'Algérie, qui détient les clés de la solution, car c'est le seul grand État du champ qui est réellement présent et qui contrôle 800 kilomètres de frontière, songe sans doute à une stratégie de division et de pourrissement telle qu'elle fut conduite pour réduire le GIA. Dans ce paysage, deux cas particuliers sont à souligner. L'Algérie d'abord. Les élections de mai 2012 ont été jugées globalement sincères par les observateurs de l'Union européenne, d'une fondation américaine, de la Ligue arabe, de l'Union africaine. Le nombre de votants, 43%, paraît faible, mais il est supérieur aux 25% que les médias occidentaux donnaient par avance à la participation. L'enseignement le plus fort est que la vague verte annoncée n'a pas eu lieu. Les partis islamistes n'ont fait que 27% des voix, comme au Maroc d'ailleurs. L'abstention traduit un retrait certain, mais un fait a été ignoré, la présence de 30% de femmes à l'Assemblée nationale algérienne, par le système des quotas, qui est différent du système qui prévaut chez nous, qui est celui de la parité. Enfin, je ne commente pas, de principe. Le Maroc. Il faut évidemment prendre garde aux tensions entre le roi, aux tensions éventuelles, et le gouvernement, mais aujourd'hui l'opinion se situe en arbitre, le roi peut choisir le moment et le thème pour contenir un PJD qui, avec 27% des voix, est puissant, mais n'est pas le seul maître du jeu. Un mot maintenant sur la balkanisation des États de la région. Celle-ci frappe de grands États comme l'Irak, dont l'unité a été mise en cause, entre arabes chiites, majoritaires, arabes sunnites, Kurdes qui sont également sunnites. Tensions sont vives, hein, je ne vous l'apprends pas. La partition du Soudan, on a accepté la sécession du Sud-Soudan, révolte chrétienne, mais aussi affaire du Darfour, très médiatisée aux États-Unis. La Libye, dans les faits, se trouve fragmentée. En Syrie, il n'est pas certain que l'issue écarte un éclatement du pays. On ne sait pas. Hein, c'est une des hypothèses. Réduit à la huit, agrandi aux chrétiens. C'est une possibilité. Le Yémen a vu son unité encore plus fragilisée. Et il faut bien comprendre que le panislamisme, surtout dans sa forme wahhabite, n'est pas forcément contradictoire avec la tendance à la balkanisation, car il veut réduire les appartenances nationales au profit d'un seul marqueur identitaire, qui est la religion musulmane. La balkanisation-islamisation peut engendrer des affrontements qui feraient qu'on nous appellerait à intervenir. C'est une situation qui, en elle-même, recèle certains dangers. La vieille thèse de l'État-nation serait bien plus utile à ces peuples. Selon moi, le modèle de l'État-nation, fondé sur la citoyenneté, et non pas sur la communauté, l'ethnie ou la religion, mérite d'être défendu face au modèle communautariste. Mais j'ajoute tout de suite qu'il ne peut l'être que par les peuples eux-mêmes. Alors je voudrais insister sur la grille d'interprétation de l'islamisme politique. Et là, je ne vais pas faire de coupe dans mon texte. Disons que le monde arabe est pour nous non seulement un voisin, c'est une formidable caisse de résonance, et sa situation au cœur du monde musulman, 1,2 milliard d'hommes, dont aucune grande puissance ne peut se désintéresser, parce qu'elles sont toutes soit riveraines, soit ont des intérêts très forts, je pense aux États-Unis, fait que nous devons porter une très grande attention à ce qui se passe dans le monde arabe, avec toujours la vision de ce qui rapproche et de ce qui différencie. Le monde arabe a une unité culturelle, en même temps il est divers. L'islam lui-même, au cœur du monde, est pluriel, j'y reviendrai. Et selon une thèse que j'emprunte en partie à Pierre Brochand, l'islam dans le monde aujourd'hui serait la principale force de résistance à ce qu'il appelle la globalisation libérale que porte l'essor des nouvelles technologies de la communication. L'information circule à la vitesse de la lumière. La libération des flux de capitaux, de marchandises, de services, sans parler des flux migratoires. Et enfin, ajoute-t-il, la dynamique de l'hyper-individualisme libéral. Je voudrais insister sur ce dernier point, qui me paraît le plus sûr. Je pense qu'il y a une réaction de l'islam, une autodéfense musulmane, par rapport à la déferlante de l'hyper-individualisme libéral. Cette dynamique hyper-individualiste n'est plus contrôlée. Il y a 1,5 milliard d'utilisateurs d'Internet dans le monde, 3,5 milliards de portables. Cette révolution nourrit le consumérisme et l'hédonisme, et plus généralement la globalisation dévalorise tout ce qui est vertical, les institutions, les États, et donne l'illusion d'un monde enfin décloisonné où l'individu est roi. mais elle favorise aussi l'apparition de réseaux transnationaux, drogue, pornographie, criminalité, terrorisme, à la faveur des frustrations et des déséquilibres que cette globalisation entraîne. Dans ce monde interconnecté, nous sommes tous des voisins obligés. Cette globalisation d'origine occidentale se heurte à la réalité du monde non occidental, chacun régissant en utilisant, si je puis dire, son avantage comparatif. Les Chinois, les délocalisations industrielles. D'autres, la rente pétrolière, on voit lesquelles, le monde arabe et la Russie. Le trafic de drogue, ça c'est une autre variété. Piraterie, immigration clandestine. Au risque de l'anomie, c'est-à-dire de l'absence de règles, c'est-à-dire d'un monde de plus en plus chaotique. Samuel Huntington a parlé de choc des civilisations. Je voudrais simplement faire observer, je ne reprends pas ces thèses à mon compte. Je pense qu'il faut être très précis. Mais l'islam oppose à l'hyper-individualisme libéral des valeurs qui sont très pour très à l'opposé des siennes. Par exemple, la primauté du groupe et de la famille patriarcale, l'hétéronomie absolue, la confusion du public et du privé, du politique et du religieux, les interdits sexuels. Il y a là une opposition très pour très. L'islam apparaît dans le monde d'aujourd'hui comme le porteur par excellence de la tradition. C'est la thèse de Pierre Brochand. Et moi je dis que c'est par rapport plutôt qu'à la globalisation, car l'islam n'est pas contre la libération du monde capitaux, il n'est pas contre le libéralisme économique, mais il est contre l'hyper-individualisme libéral. Et il réagit très différemment, parce que, encore une fois, l'islam est une religion, et il y a, je dirais, plusieurs courants à l'intérieur de cette religion. L'islamisme, lui, est une idéologie politique qui tend à la prise du pouvoir, alors que l'islam peut revêtir des formes très diverses. Islam quiétiste, islam moderniste, c'était le cas du nationalisme arabe, islam wahhabite, islamisme politique, celui des frères musulmans, djihadisme. Il s'agit là d'une guerre ouverte, faite à l'Occident, mais aussi sur place au régime impie, au régime mécréant. Kofr, on dit en arabe, mais il y a ici des arabisants qui pourraient corriger mon accent, donc je n'insiste pas. Donc ne figeons pas l'islam dans une sorte d'essentialisme. L'islam n'est pas un bloc, mais on peut néanmoins observer des réactions d'autodéfense par rapport à l'hyper-individualisme libéral, que je vais distinguer selon le niveau de dissidence qu'elles expriment. Réaction de rejet, le djihadisme. Réaction de refus, l'islamisme politique. Réaction de repli, l'islamisation des mœurs. Le djihadisme, c'est le retour à la lettre du Coran et au califat originel par la guerre contre l'Occident et contre ses suppôts locaux. L'événement fondateur, c'est l'Afghanistan, mais il y a d'autres occasions qui ont permis à ce djihadisme de se manifester. L'Irak hier, le Yémen, la Syrie aujourd'hui, l'Algérie dans les années 1990, et même nos banlieues, toujours derrière des hommes jeunes, une crise d'identité liée, en particulier dans nos banlieues, à une crise de l'appartenance, du sentiment d'appartenance. Qui sont-ils ? Donc, tentation du djihadisme, dont il faut simplement faire observer que le terreau qui le favorise est beaucoup plus inquiétant que ne l'était le terreau sur lequel on pas vraiment prospéré les groupuscules gauchistes dans les années 1970. Il n'y avait pas de terreau, en fait, pour les groupuscules gauchistes, alors que pour les groupuscules de djihadistes, le terreau est là. Je précise qu'il s'agit du fait d'une toute petite minorité d'hommes jeunes en crise d'identité et que rejette la majorité des musulmans fondamentalement modérés et adeptes d'un islam plutôt quiétiste. L'autodéfense musulmane peut prendre en pays d'islam la forme du refus. C'est l'islamisme politique qui recherche la voie de la prise du pouvoir politique pour instaurer la charia, c'est-à-dire la loi de l'islam. L'islamisme politique est pragmatique, il ne remet pas en cause le marché, il est ouvert au compromis. La question qui se pose est de savoir s'il peut accepter le pluralisme, l'alternance, une totale liberté de conscience, d'opinion, bref, la démocratie. Et qu'on puisse ainsi parler de démocratie musulmane, comme je l'ai fait tout à l'heure à propos de la Turquie, comme il y a eu en Europe après 1945 une démocratie chrétienne, notamment en Italie et en Allemagne, et peut-être même en France, mais c'est moins visible. Donc l'islamisme politique peut-il constituer un détour vers la démocratie ? Henri Laurent semble le penser, Il dit que le pouvoir pourrait être un cadeau empoisonné pour les islamistes qui vont être confrontés avec la réalité et que par rapport au problème du chômage, la place dans les écoles, eh bien l'islam ne peut rien. Et il ajoute, il y aura des abcès de fixation, mais les courants majoritaires n'iront pas jusqu'à sacrifier l'économie. Les doctrines islamiques sont en général des doctrines solidaristes. Elles s'accommodent d'une médiocrité globale où chacun a les moyens de vivre. Mais rien n'empêche de penser que les islamistes d'ici quelques années se seront délégitimés. Et il conclut en disant, nous ne sommes pas en 1789 ni en 1917. L'objectif de la révolution est de faire coïncider le pouvoir avec la société. Or, les sociétés musulmanes sont conservatrices. Elles ne remettent pas en cause les circuits de l'économie. Donc, voilà, c'est la vision d'un grand orientaliste qui, à long terme, est plutôt positif. À ceci près que je fais observer que, à long terme, comme disait Keynes, nous sommes tous morts, et que les hommes politiques, eux, ne peuvent pas raisonner à long terme. Ils doivent raisonner à court et à moyen terme. Et que, naturellement, l'islamisme politique comporte des dérives potentielles qu'il serait imprudent de ne pas envisager. Complaisance à l'égard du salafisme et par ce biais du djihadisme. Perturbation géopolitique majeure. Irréversibilité des processus engagés. Problème de l'Égypte aujourd'hui. Degré d'emprise sur la société. Je pense notamment au statut de la femme, qui représente la moitié de la société. Et puis, il y a aussi ceux des musulmans qui n'ont pas pour seul horizon l'observance littérale de la lettre du Coran. Il y a, dans ces sociétés arabes ou plus généralement musulmanes, des fractions modernistes importantes. Troisième forme de réaction à l'hyper-individualisme libéral porté par l'Occident, c'est le repli, tout simplement. L'islamisation des mœurs, quelquefois encouragée par les gouvernements non islamistes, mais dont il n'est pas aventuré de prédire qu'elle nourrira à terme l'islamisme politique. Et que, de toute façon, cette islamisation des mœurs est pénible pour une partie de la population. Je n'y reviens pas. Il y a donc un savant dégradé de réactions défensives des sociétés musulmanes à la déferlante de l'hyperindividualisme libéral. J'ai beaucoup emprunté à Pierre Brochand, je tue à lui rendre hommage, j'ai nuancé son propos sur certains points. Pour ma part, je ne suis pas tenté de jeter le bébé avec l'eau du bain. J'incline à penser que l'idée républicaine est pour le monde arabe une idée toujours neuve, comme disait Clémenceau. C'est la thèse que professe Georges Cormes, un petit livre récent pour une lecture profane des conflits, notamment au Proche-Orient. Et ce que je connais de l'Algérie me laisse penser qu'il y a un fond républicain très important. Un ministre algérien, une femme, me disait « Mais vous savez, la société algérienne a vraiment basculé pour nous, les modernes, le gouvernement, quand les islamistes du GIA ont prétendu interdire la fréquentation de l'école aux enfants. À ce moment-là, les parents ont conduit eux-mêmes les enfants à l'école et tous ont fait leur devoir, les enseignants, les parents d'élèves et les élèves. Et à ce moment-là, les bases sociales de l'islamisme politique, à l'époque, ça allait plus loin qu'un islamisme politique, c'est du djihadisme, du GIA, particulièrement violent d'ailleurs, se sont effrités. Alors je conclus brièvement, quelle politique française vis-à-vis du monde arabe? C'est très difficile, parce que la France est porteuse de valeurs. Nous avons un certain nombre de valeurs dans notre génome républicain, donc nous sommes affrontés à une certaine réalité qui n'est pas la nôtre. Je reste persuadé qu'il faut quand même tenir bon sur des valeurs de principe. Respect de l'autodétermination des peuples, dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Refus de l'ingérence. Dialogue des cultures et des nations. Et je précise que les valeurs dont nous sommes porteurs ne s'exportent pas à la pointe des baïonnettes, comme l'observait d'ailleurs déjà Robespierre, auquel il faudrait rendre hommage, plus souvent qu'on ne le fait. Mais il avait cette observation judicieuse face aux Girondins qui voulaient la guerre, vous vous en souvenez peut-être, en 1792. Donc lui, il avait un discours beaucoup plus, prudent. Jacques Berck, que j'ai bien connu, qui était mon maître et mon ami, disait que la démocratie n'est pas un article d'exportation et qu'il fallait faire confiance au peuple pour s'approprier le progrès tel que nous l'entendons et la démocratie elle-même en s'appuyant sur leurs traditions, sur leurs concepts, en les revivifiant et en empruntant des outils à l'Occident dès lors que ça correspondait pour eux à une nécessité de survie, un peu comme les Japonais l'ont fait à l'ère Meiji. Mais également, le mouvement de la Nada dans le monde arabe, au tournant du 19e et du 20e siècle, voulait emprunter à l'Occident ce qui était nécessaire au monde arabe et aux sociétés arabes pour se relever, répondant ainsi à l'appel que Napoléon Bonaparte avait lancé en 1798, 8 jours après son débarquement en Égypte. Et c'est ce que voulait la Nada. Et il faut s'appuyer sur les motivations des peuples. Et je pense pouvoir dire que Jacques Berck aurait vu avec une certaine empathie ce qui se passe, mais serait resté ferme sur les valeurs des Lumières auxquelles il était extrêmement attaché. Lui-même rappelait que le prophète, 44 fois, dans la traduction qu'il a donnée du Coran, fait appel à la raison naturelle, dit « la raison naturelle est ce qui doit vous guider ». Je dis toujours ça avec les sensibilités de l'islam de France, quand j'ai lancé la consultation qui aboutit à la création du centre du comité français du culte musulman. Donc 44 fois, le prophète fait appel à la raison naturelle, et il incite ses fidèles à rechercher le savoir jusqu'en Chine, qui à l'époque était l'extrémité du monde. Donc il y a une lecture du Coran qui peut être faite, qui est une lecture progressiste, si je puis dire, en tout cas moderne. On n'est pas forcément obligé de coïncider avec la lettre qui correspond à la morale de société qui se développait au 7e siècle, un siècle de l'Égir. Un mot sur les valeurs que nous voulons transmettre. De quelles valeurs voulons-nous donner l'exemple? Est-ce que nous voulons transmettre l'hyper-individualisme libéral? Est-ce qu'il n'est pas le temps de rappeler que la Révolution française a mis le citoyen au-dessus de l'individu, que la Déclaration des droits de l'homme est aussi celle du citoyen, ce qu'on omet régulièrement aujourd'hui de mentionner, et même la Ligue des droits de l'homme a oublié qu'elle était aussi, et je le dis quelquefois à son président, la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, mais ça ne figure plus dans l'intitulé. Et c'est ennuyeux parce que les droits du citoyen protègent les droits de l'homme, garantissent les droits de l'homme. S'il n'y a pas des citoyens qui peuvent garantir un état de droit, les droits de l'individu sont en danger. Mais il faudrait le rappeler plus souvent. Donc, il me semble que la République française, fidèle à ses valeurs bien explicitées, l'égalité est ce qui manque le plus dans nos relations avec les sociétés musulmanes. Et ils sont très susceptibles, parce qu'ils sentent quelquefois le préjugé inégalitaire, qui est inadmissible d'ailleurs, et contraire au bon sens. Cette conception de l'égalité qui fonde la fraternité, la liberté d'esprit, c'est-à-dire une laïcité qui n'est pas tournée contre la religion. La laïcité, elle est pour la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de croyance. Elle fait appel à la raison naturelle. Elle pense que, dans un espace commun, nous pouvons nous entendre quelles que soient les révélations auxquelles certains sont ou ne sont pas appuyés. Je ne jamais disais que les Français sont arreligieux, mais pour beaucoup d'entre eux, pas tous, heureusement. Je l'ai dit comme ça en passant. Donc, la République implique des règles, il faut le rappeler. Lacordaire disait déjà qu'entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. L'islamisme politique est un courant important dans le monde musulman, mais nous n'avons pas d'assurance sur sa réversibilité, ni encore une fois sur le degré d'emprise qu'il exercera sur les sociétés qu'il parviendra à dominer politiquement. La France doit rester fidèle à quelques règles, quelques principes. La non-ingérence, sans pour autant cesser d'affirmer les valeurs républicaines auxquelles nous tenons. Nous devons reconnaître les gouvernements issus des urnes, qu'ils nous plaisent ou non, continuer à reconnaître des États et non des régimes. Mais on peut peut-être aller plus loin et nouer des alliances stratégiques avec des pays qui nous sont les plus proches. Il y en a deux à l'évidence, qui sont l'Algérie et le Maroc. Charles de Gaulle disait déjà que l'Algérie est la clé du Sud. Moi, je le pense depuis 50 ans. Je pense que l'Algérie est un pays très important. Naturellement, le Maroc l'est aussi. Nous n'avons pas à jouer des concurrences entre le Maroc et l'Algérie, car au fond, eux-mêmes affirment une finalité qui est un Maghreb uni. Mais chacun sait que entre la fin désirée et la réalité, il y a quand même plus que l'épaisseur du trait. Alors, quelle politique arabe pour la France? Je conclus, il faut instaurer la cohérence. Ne pas hystériser l'islam en France et proposer l'union pour la Méditerranée. Ça paraît clair. On ne peut pas soutenir l'islamisme politique dans le monde arabe en fermant les yeux sur ses dérives djihadistes et combattre ces mêmes dérives djihadistes en Asie, en Afghanistan par exemple, ou en Afrique, au Mali. Faut un peu de cohérence. On ne peut pas faire comme si l'islamisme politique était le seul régime qui convenait chez eux aux peuples arabes et prôner en même temps l'intégration en France de nos compatriotes de tradition musulmane. Là aussi, il y a encore une contradiction. Donc il faut mettre un peu d'unité et de cohérence dans notre vision de l'islam au sens large, mais aussi de l'islamisme, du djihadisme et des différents courants de l'islam. Pour ma part, je pense que la France ne doit pas se rallier à la vulgate de l'hyper-individualisme libéral. Nos valeurs républicaines sont des valeurs héritées pour la plupart, mais laïcisées. À bien y réfléchir en défendant les droits du citoyen en même temps que les droits de l'homme, nous rendrons service à l'Occident, nous rendrons service au monde musulman aussi, en l'aidant à trouver le juste équilibre entre ce que Jacques Berck appelait la modernité, d'une part, et d'autre part, l'authenticité, qui va plus loin que la tradition. Car la tradition est un peu la répétition, alors que l'authenticité est quelque chose de plus fort. Donc voilà, c'est une réflexion en fait sur le monde moderne, sur l'islam et sur le monde arabe, qui, encore une fois, est en son cœur. Merci de m'avoir écouté.
Vous venez d'entendre Jean-Pierre Chevènement. Le texte de sa communication est disponible sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr. Toutes les communications de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bassit-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel » sont enregistrées par Canal Académie, disponibles à l'écoute et au téléchargement en libre accès permanent.